Raymond Dikoumé, un Français en quête de son Cameroun.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
1m81, yeux marrons, cheveux noirs. Langue bilingue, français-anglais avec accent français. Espagnol, notion. Bassa, lu, parler. Profession, auteur, acteur, metteur en scène, chanteur baryton, très bon niveau. Origine, Cameroun. Voilà pour en sol majeur ce que dit la fiche artistique de Raymond Dikoumé. Mais ce que le CV ne dit pas, c'est combien il reste difficile pour cet enfant de la République de se faire une place dans la grande famille du théâtre et du cinéma. Seule solution, remonter aux origines en montant une pièce de théâtre. C'est ainsi que lui et Lamine Diagne, bien connus dans sol majeur, signent et interprètent Français, l'histoire de deux afro-descendants qui s'emparent de la grande histoire coloniale pour croiser leur parcours et leur métissage, avec en point de suspension la question noire en France, à voir cet été au Festival d'Avignon. Comment ça va, Raymond Dikoumé ?
Ça va très bien, merci.
Excité, inquiet, fou de joie, dans quel état d'esprit vous êtes avec ce Festival d'Avignon qui arrive ?
Excité, ça m'excite. Le Festival d'Avignon, c'est toujours un super moment, déjà pour notre spectacle, parce que ça nous permet de l'éprouver, de rencontrer un large public, et surtout que c'est aussi un lieu où on rencontre aussi d'autres professionnels du spectacle. C'est un joli espace de travail et de rencontre.
Je vous emmène au pays du portrait ?
Oui.
Yalla.
J'ai comme gramophone.
Alors, est-ce que tu danses? Car dans Boomer, il y a Boom, et c'est vrai que pour la génération des Boomers, c'est un souvenir de slow, langoureux que ce Procolarum. Mais pour vous, Raymond Dikoumé, qui êtes né en 86, hein, ce titre vous rappelle quoi?
Ça me rappelle mon enfance. Ça rappelle l'HLM dans lequel j'ai grandi, à Colombes, dans une cité qui s'appelle la cité des Côtes d'Auty. Ça me rappelle cet appartement, ça me rappelle mes parents, mes deux grandes sœurs aussi avec lesquelles j'ai grandi.
Donc ce coin de Colombes, oui. En région parisienne, c'est une banlieue heureuse, vous diriez, loin des clichés ? Ou pas forcément ?
Je ne sais que dire. Moi, en tout cas, mon enfance, on va dire qu'elle était heureuse. J'ai grandi dans cette cité vraiment sans être conscient des clichés que représentait la cité à cette époque-là. Et surtout, en plus, il me semble qu'il n'y avait pas énormément de trafic de drogue. Pour moi, c'était vraiment un endroit heureux. J'ai le souvenir de grandes mixité, et cette cité aussi qui est quelque chose de particulier parce qu'elle avait, je sais pas, elle évoquait quelque chose pour moi d'assez tropical. Je ne sais pas quoi vous le dire. C'est la nature, la verdure, l'ocre aussi, la cité. Tous les bâtiments étaient ocre, assez rectangulaires. Et quand je suis parti au Cameroun pour la première fois, je crois que je devais avoir 6 ans, j'ai cru reconnaître ce type d'architecture-là. Donc tout à coup, ça me rappelait, cette cité, elle faisait aussi un lien avec l'Afrique.
Des parents camerounais installés en France à partir des années 80, pour vous diriez quoi ? Un mieux vivre ?
Ils rêvent d'une nouvelle vie et puis je sais aussi qu'ils représentent un grand espoir aussi pour leur famille qui est restée au Cameroun, parce que mon père et ma mère, chacun de leur côté, on va dire que dans leur famille, c'est ceux, entre guillemets, qui ont réussi, en tout cas qui ont réussi à quitter le Cameroun. Et donc oui, c'est un rêve et puis c'est aussi peut-être l'aboutissement de leur éducation. Les deux ont été, ont grandi dans des écoles où on parlait français, où on cultivait aussi la culture française. Donc d'arriver en France, c'était une consécration.
Études de comptabilité pour votre père, oui. Notamment. Donc vous n'êtes pas Raymond Dikoumé, ce qu'on appelle un enfant de la balle. Vous êtes plutôt un enfant des quartiers. Mais comme souvent, les enfants de quartier se font draguer par une sorte de créativité. Il y a beaucoup de créativité dans les quartiers.
Oui. Il y a beaucoup de créativité dans les quartiers et il y a eu aussi beaucoup de créativité chez moi. Je dirais qu'avec mes frères et sœurs, on s'amusait avec rien. En fait, on crée des univers, des mondes avec pas grand-chose. Et j'ai l'impression que c'est là où j'ai commencé en réalité à faire du théâtre, à construire mes premières mises en scène. C'est avec une poupée Barbie de ma sœur, avec un G.I. Joe, je racontais des histoires, je créais des lieux dans lesquels mes personnages s'amusaient. Donc c'est ça, un lieu de création. Et puis en effet aussi un lieu de métissage. J'ai l'impression que le fait d'avoir évolué avec plusieurs cultures m'ont rendu assez... pour eux, et on crée en moi un espace où les choses peuvent se relier facilement.
N. Sors-les et laisse-les refroidir, parce que quand ils sont chauds, chérie, ils sont moins drôles. Hein. Et ne sois pas surpris, parce que tu vois, dans ta casserole, tu t'es préparé une bonne fournée de négro. Yes, c'est ça que t'as fait, chérie. Tu viens cuisiner, oh yes, une bonne, yeah, une bonne fournée de négro.
Un comme noir, c'est noir.
Au son blues de The Color Museum de George Wolfe, ce dramaturge afro-américain que vous aimez tant, qui est un habitué d'ailleurs des comédies musicales et que vous avez mis en scène pour le Festival de Marseille en 2023, Raymond Dikoumé. D'abord juste, quel est l'argument rapidement de cette pièce ?
The Cloud Museum, c'est une pièce assez chorale, on va dire. C'est déjà un classique dans le théâtre afro-américain qui raconte les problématiques liées à la culture africaine-américaine.
Alors, vous montez cette pièce, d'après ce que j'ai cru comprendre, suite à une prise de conscience chez vous, lorsque vous arrivez aux États-Unis en 2011. Quelle est cette prise de conscience ?
Wow. Alors, j'arrive à 2011 aux États-Unis et puis très vite, j'ai la chance de rencontrer Jordan Mahomet qui met en scène The Cloud Museum et qui me propose un rôle parce qu'il y a un personnage français dans la pièce. Donc, j'arrive dans les studios à Broadway et là, en fait, il me propose de jouer un autre rôle dans le spectacle qui est le rôle d'un esclave. Je joue le rôle de cet esclave. Il me demande de parler une langue africaine. Donc, je dis les quelques mots de Bassa que je connais. Et là, c'est assez dingue parce que je me mets à jouer cet esclave. Je me mets à pleurer en Bassa sur scène. Et tout à coup, je me sens super reconnecté avec ce personnage-là parce que moi-même, en fait, je viens d'arriver aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Je ne parle pas si bien le français.
Le français ?
Pardon, je ne parle pas bien l'anglais. Ouais. Et là, je me rends compte que... le rôle que je suis en train de jouer, c'est un rôle en fait qui a aussi une importance dans mon histoire, comme il y a une importance pour les Afro-Américains qui sont autour de moi, qui eux tous me félicitent et ont l'impression en fait que je les relie à l'Afrique, alors que c'est eux qui me relient entre guillemets à mon africanité. Quoi. C'est la première fois que je me retrouve dans une pièce de théâtre où il n'y a que des acteurs afro-descendants. En fait, les thèmes qui sont traités, j'ai l'impression en fait de voir ma famille mise en scène, j'ai l'impression de voir mon intimité mise en scène, chose que j'ai jamais expérimentée dans le théâtre français.
Car jusque-là, en fait, vous vivez juste comme normalement un artiste français, vous vous sentez bien français, sauf que le milieu du théâtre, du cinéma ne vous perçoit pas forcément comme tel, mais c'est une réalité que vous avez niée longtemps.
Oui, que j'ai nié, je crois aussi pour éviter de souffrir. Parce que le fait de ne pas le faire exister, ça nous atteint moins, même si ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Oui, parce qu'il y a aussi une petite différence entre le moment, enfin, lorsqu'on est en cours de théâtre, lorsqu'on apprend le métier d'acteur et qu'on se retrouve là, pour le coup, à être confronté au monde du travail.
Si par exemple on parle des rôles et des castings que vous avez pu vivre, quelle était votre réalité d'acteur français noir ?
Alors ma réalité, c'est que j'ai pas beaucoup d'opportunités à cette époque et que j'étais souvent confronté à des petites violences. Déjà, même parfois lors du casting, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise que je suis trop noir ou voilà, que j'étais pas assez beau, qu'on cherchait un noir beau ou un métis, des mots comme ça un peu choquants.
Mais on cherche un noir, on cherche pas un comédien.
Oui, on cherchait un noir et ça, c'est un truc avec lequel j'ai essayé de composer. Même si ça ne m'intéressait pas trop. Et au niveau des rôles qu'on proposait, c'était souvent des choses assez clichés et je ne rentrais même pas dans ces clichés-là. En fait, le cliché du jeune de banlieue, justement, avec cette image un peu mafieuse, un petit peu dangereuse, avec laquelle je ne me reconnaissais pas du tout. Comment dire, j'avais l'impression même parfois de faire du blackface parce que c'était super cliché ce qu'on me demandait. Et il y avait aussi la question, parfois, on me proposait aussi de jouer des personnages entre guillemets africains, c'est-à-dire qu'en accent, qui viennent d'arriver. Et j'ai compris aussi qu'on ne comprenait pas vraiment ce que c'était qu'un noir français.
Résultat, vous dites avoir eu ressenti un complexe pour trouver votre place dans la culture française.
Oui. Et je dirais même ce complexe, il vient aussi de la bourgeoisie, peut-être de l'élitisme aussi du monde théâtral dans lequel on évolue. Et moi, j'arrive un petit peu avec ma culture de quartier. Je vais pas beaucoup au théâtre. Je me sens en décalage.
Alors en tout cas, effectivement, le théâtre, il apparaît assez vite dans votre vie de lycéen. Vous faites une première littérature, oui. Vous intégrez un collectif, le collectif de Rap Recta. Oui. Et puis, à la fac, vous faites art du spectacle et vous commencez à écrire en 2006 votre premier spectacle qui s'appelle Hugo. Et vous partirez même au Festival d'Avignon en 2009 avec cette pièce. Parce que écrire vos histoires, ça commence en fait à vous travailler de l'intérieur. Mais écrire quelles histoires, au fond ?
C'est vrai que le passage avec ce collectif de rappeurs était assez important parce que c'est eux qui m'ont permis aussi de définir ma personnalité artistique. Les rappeurs ont cette particularité-là d'écrire, de chanter ce qu'ils écrivent. Et donc, je me suis dit qu'en tant qu'acteur aussi, c'est ce que j'aurais envie de faire, peut-être d'écrire moi-même. J'avais aussi cette volonté de parler avec le théâtre aux jeunes de quartier, comme à ma famille, comme à mes parents, parce que dans mes tout débuts, en fait, je jouais des spectacles. Malheureusement, enfin, je me souviens d'une pièce, Léon Séléna, mes parents viennent me voir, on joue au Théâtre Marigny, et ils me disent, écoute, Raymond, t'étais très beau, mais on n'a pas compris de quoi parlait la pièce. Et vraiment, je me suis dit, en fait, non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de faire du théâtre pour
Pour
la bourgeoisie parisienne.
Oui, parce que justement, c'est intéressant, il y a un décalage finalement entre vous, comédiens, et les comédiens que vous croisez dans les conservatoires parisiens que vous allez faire. Il y a un clash social là que vous vivez.
Oui.
Vous ne vivez pas les mêmes réalités en tant que comédien.
Non, on ne vit pas les mêmes réalités. Et puis, particulièrement aussi avec ma troupe de théâtre, parce que je monte Drama, donc une compagnie qui est composée de jeunes comédiens du 92. Et dans cette compagnie, on est aussi confronté en gros à des problèmes de quartier. Un comédien, un jour, qui ne vient pas en répétition et qu'on ne reverra plus pendant un petit moment parce que malheureusement, il est en prison, il est, est tombé pour trafic de drogue, ou des comédiennes aussi dont les parents n'acceptent pas forcément le fait qu'elles soient comédiennes, donc qui doivent partir de chez elles. Et donc, en fait, on doit se cacher pour répéter, on doit se cacher pour jouer. Il y a cette problématique-là. Et puis, l'autre problématique aussi qui est d'être un jeune qui évolue aussi en banlieue parisienne, c'est-à-dire qu'en fait, fait, là, j'ai l'impression que la façon dont on me voyait, en particulier dans ma ville, enfin, j'ai une petite association, donc je bossais aussi un petit peu avec la ville et le département. J'ai l'impression que ce qu'on attendait de moi, c'était que je devienne un artiste social, que je donne des cours à la MJC, mais qu'on ne me voyait pas vraiment comme un artiste.
Éducateur, donc... quoi. Ça Exactement. Vous irait bien, ça.
C'est ça.
En tout cas, je ne sais pas, mais peut-être que c'est au retour de votre voyage aux États-Unis où vous allez être formé hein, à l'acting, Raymond Dicoumé. Lorsque vous rentrez en France, en tout cas, vous savez quoi écrire. Vous allez écrire notamment une web-série.
Oui.
Et ce sera les contes de la street pour un sol majeur. Extrait.
Quartier qui nous sert de ghetto. Là où pour faire du chiffre, pas besoin de se lever tôt. On accélère en scooter sur le trottoir. On vit à notre manière, ici c'est le foutoir. Trop de bouc quand le chien ne cesse d'aboyer. Bienvenue là où les gens ne payent pas de loyer.
Tu as l'air de dégager quelque chose de méchant. De machiavélique même. Est-ce que je me trompe?
Continue.
Regard rêveur. En direction de la lune. Peut-être que ce serait ton objectif.
Je suis déterminé, prêt à tout. Je rêve de pouvoir.
De notoriété.
De luxe.
De respect.
Avec ses contes de la street, Raymond Dicoumé, on est sur RFI et en banlieue. Mais alors justement, quelle banlieue vous souhaitez raconter ?
Une banlieue qui fait peur, mais qui fait peur un peu autrement.
C'est quoi autrement ?
Autrement, c'est-à-dire en fait, c'est des histoires d'horreur dans une cité.
Donc il y a quand même des histoires de règlement de compte, des codes d'honneur, des codes de fraternité ou de solidarité, mais faire peur, comme vous le disiez à l'instant, faire peur avec quoi ? Peut-être avec une dimension mystique ?
En effet, là, cette série, elle m'avait été inspirée d'ailleurs par une série que je regardais quand j'étais enfant, qui s'appelait Les Contes du Mboa.
Ah oui, ça faisait comme ça d'ailleurs.
Tu n'es pas très stable, hein, parce que tout le temps que tu vas là-bas, tu ne nous ramènes même pas une bête. Qu'est-ce qui se passe ?
On a deux hommes en costard-cravate, installés dans un maquis.
Le véritable problème, c'est que je ne tombe pas sur la femme qui me...
Peut-être à Douala, peut-être à Yaoundé. Puis,
tu vois, je suis bien obligé de temps en temps de...
L'un des deux a le regard attiré par deux nanas.
J'ai même l'impression que tu n'es pas avec moi.
Deux go qui sirotent un jus de bissap.
Bien, il y a une nana qui t'a tapé à l'œil, là. Parce que tu sais, Alex, moi, je suis pour que tu sois comme moi, hein, tu sais. Je me suis bien marié, il te faut une belle femme.
Voilà un court extrait d'un épisode intitulé « La vie du Mboa », donc série camerounaise des années 2010, comme ça. Mmh. Raymond Dicoumé, en quoi elle vous a inspiré pour écrire les contes de la street qui se déroulent quand même en banlieue parisienne ?
Mmh. Déjà, c'est une série qui m'a fait beaucoup rire. C'est-à-dire que mes parents, en fait, revenaient du Cameroun avec ces DVD-là. Je les voyais, ça me faisait rire. En même temps, ça me faisait peur et ça me rappelait aussi mes voyages au Cameroun. C'est-à-dire que mon rapport avec le Cameroun, pour moi, c'est déjà beaucoup d'humour. Quand je vais au Cameroun, c'est le moment en fait où je ris le plus dans ma vie. Et ce rapport au mystique, là, où justement même, comment dire, je viens d'une région qui s'appelle Yabassi. Et cette région-là est réputée un peu pour être une terre de sorciers. Donc même mes cousins ont peur d'y aller. Donc j'ai toujours cette chose en moi. Et
ça vous a aidé aussi dans la manière de vous représenter, de voir cette série camerounaise.
Exactement.
C'est-à-dire ?
Là, pour le coup, c'était la première fois que je voyais des artistes africains écrire, monter, produire leur propre série. Ils m'ont fait comprendre que c'est possible. Et je crois aussi, hein, quand je vous parlais tout à l'heure de cette cité, qu'il y avait quelque chose de tropical. Moi-même, en fait, j'aimais avoir peur dans la cité. Et dans cette cité aussi, il y a beaucoup de mythes qui se rejoignaient. Parce que là, tout à coup, il y avait la Dame Blanche et puis il y avait Aisha Kundusha. C'est-à-dire, en fait, chaque culture venait aussi avec son mystique. Et c'est tout cela que j'ai voulu réintégrer dans cette série-là.
En tout cas, ce qui est sûr petit à petit, c'est que vous aimez, Raymond Dicoumé, donner la parole aux exclus, aux déçus et même aux déchus. Et
oui.
Parmi les déchus relativement célèbres, il y a un certain Osman El-Karaz, qui donnait, les cinéphiles s'en souviennent, la réplique notamment à Sarah Forestier dans L'Esquive d'Abdelatif Kechiche en 2003. Dans ce film, il y joue Abdelkrim, dit Crimo. C'est un ado des quartiers qui passe son temps à esquiver l'amour et à esquiver la langue de Marivaux. Il est en pleine répétition, là, dans la scène qu'on va écouter, devant toute la classe. Il répète « On ne badine pas avec l'amour ». Et c'est une scène qui est dirigée par une prof excédée.
Tu la vois, elle est belle, elle t'a manqué. Alors le lustre, même s'il est très beau, tu le vois pas, d'accord?
Hein?
C'est elle que tu dois regarder. Allez, vas-y.
Enfin, ma reine. Je vous vois et je ne vous quitte plus, car j'ai trop pâti d'avoir manqué d'autres présences et j'ai cru que vous esquiviez la mienne.
Il faut vous avouer, monsieur, qu'il en était quelque chose.
Ah, que ces paroles me fortifient.
Non. Tu le fais exprès, là.
De quoi?
Bah rien, t'es là, tu me débites tes répliques les unes après les autres, y a pas de cœur, y a pas de conviction, y a rien. Ah, que ces paroles me fortifient, on l'a vu déjà, ça.
Je reprends tout?
Non. Il faut vous avouer.
Il faut vous avouer, monsieur, qu'il en était quelque chose.
Comment donc, ma chère Amélie, qui tire de mon cœur?
Ne la quitte pas des yeux, il n'y a aucune raison que tu regardes le public à ce moment-là.
Avez-vous...
Il faut vous avouer quelque chose. Il en était quelque chose, monsieur. Oui, c'est vrai, je vous esquivais. Ah bon, vous m'esquiviez, mais pourquoi? Vous voulez plus me voir? Allez, reprends.
Comment donc, ma chère Amélie, qui tire de mon cœur? Avez-vous entrepris la fin de ma vie?
Non, mon cher. La durée m'en est trop précieuse.
Ah, que ces paroles me fortifient.
Amuse-toi!
Les cinéphiles et tous ceux qui ont adoré L'Esquive d'Abdelatif Kechiche se demandent peut-être ce qu'est devenu ce fameux Crimo à l'écran, Osman Elkaraz dans la vie, parce que c'est vrai que dans la vie, il a complètement disparu des radars. Et il le raconte, ce pourquoi, dans un livre que vous, Raymond Dicoumé, avez co-écrit avec lui. Extrait.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Abdel, une scène de 2 minutes, tu peux la refaire pendant 3 jours. Et celle-là, on a dû la tourner au moins 50 fois. C'était super dur. Entre la prof et lui, ça se mélangeait. On aurait dit qu'il n'y avait plus de fiction. Je me mangeais des coups de pression à la chaîne. C'est pas comme ça qu'il répétait. Il me criait dessus et moi, je comprenais pas ce qu'il voulait. Moi, j'étais fatigué et j'avais la dalle. Entre deux prises, Abdel s'est mis à parler avec le cadreur. J'en ai profité pour aller me chercher quelques quartiers d'orange. Abdel, qui t'a dit de manger ça? Il a pété un câble. Abdel, non mais tu te prends pour qui? T'as deux caméras sur toi, c'est du jamais vu. Tu t'es cru où? Devant tout le monde, il m'a incendié. J'étais tout rouge. J'ai craqué.
Merci Raymond Dicoumé pour cet extrait de Confession d'un acteur déchu que vous avez donc publié aux éditions Stock il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous liait à ce Osman Elkaraz?
Alors Osman, on a grandi dans le même quartier à Colombes. Il y avait une maison de quartier aux côtes d'Oti et puis on est allé, je crois, à 2 reprises en vacances ensemble. Donc on se connaissait bien, mais comment dire, on s'est un peu perdu de vue au moment où on a commencé en fait chacun de notre côté à faire pour moi du théâtre et lui du cinéma. Et on s'est retrouvés en 2012, boulevard Osman. Il m'a dit qu'il galérait, qu'il avait envie d'en faire un film. Il savait que j'écrivais déjà du théâtre et donc on est parti sur cette aventure.
Alors on vient d'entendre la langue dans laquelle vous restituez son témoignage. C'était quoi le challenge de ce livre?
Le challenge, c'était de faire entendre sa voix, de faire rentrer un langage urbain dans le monde de la littérature, parce que ça, je crois que c'est quelque chose aussi qui m'importe beaucoup dans mes créations, en fait, de faire rentrer des cultures qui restent un peu confidentielles dans ces grandes maisons d'édition, en fait, de les conserver aussi. C'est être honnête avec Osman, raconter la vie, raconter la rue, raconter le cinéma avec sa langue, avec notre langue.
Raconter aussi peut-être ce qui a été perçu par le grand public comme une injustice le concernant, ce qu'il raconte. Donc je vous ai lu, j'ai relevé par exemple cette phrase, lorsque le film sort, il y a une couverture médiatique énorme, il dit « le matin tu te lèves dans une maison en mode système D », ce qu'il galère toujours, « et le soir t'es chez Ardisson ». Qu'est-ce que vous diriez de ce déchu? Est-ce qu'il y a eu une forme d'injustice ou est-ce qu'il y avait une forme d'incompatibilité d'humeur, on va dire, entre le milieu et ce jeune acteur Osman Elkaraz?
Nos milieux, c'est des milieux qui nous utilisent. Donc Haussmann, en effet, il a été utilisé et ce qui était assez dommage, c'est qu'il avait confiance en Abdelatif Kechiche. Il était content de rentrer dans cette nouvelle famille du cinéma, lui qui était orphelin. Et donc le fait de s'être senti rejeté après la sortie du film, c'était d'autant plus violent. Mais c'est vrai qu'on est dans un système qui n'est pas simple du tout. Hein. Moi-même, justement, en étant prof de théâtre, on m'a souvent demandé de présenter des jeunes à des castings, ça s'est passé à plusieurs reprises, et la façon dont ces jeunes sont traités, ça peut être assez violent. Donc je pense qu'on est dans un milieu qui pratique des formes d'abus manifestes.
Vous allez entendre une histoire. Comme toutes les histoires, elle est fausse, subjective, tronquée. Mais c'est peut-être une histoire d'amour et surtout une histoire qui pourrait bien se terminer. Dans cette histoire, il y a de la place pour tout le monde, toute l'humanité. Le temps ne compte pas vraiment. On ressuscite le passé, on réveille les morts. Dans cette histoire, il y a des femmes au pays, des femmes continents aussi larges que généreuses. Dans cette histoire, il y a Lamine et Raymond. Et il y a vous aussi. Mais on va s'intéresser à une famille en particulier. Notre petite famille française. Et comme dans toutes les familles, il y a des secrets de famille.
D. Comme 12 France.
On est dans le noir et surtout dans l'ouverture de Français, programmée au Festival d'Avignon cet été. Pièce mise en scène par Jessica Dalle, coécrite et jouée par vous, Raymond Dicoumé, avec Lamine Diagne, qu'on embrasse en sol majeur. Une pièce intitulée « Français », mais je vois qu'il y a une faute de français, justement.
Oui. Oui, français, c'est dit, accent aigu. On a un titre un peu particulier. Quand on commence à travailler sur le projet, c'est Lamine qui me contacte en me disant qu'il a envie de parler de la colonisation. Et moi, ce que j'ai de très fort avec la colonisation française, c'est le principe d'assimilation. Comment est-ce que, justement, la France a francisé des parties du territoire, donc, et au-delà de ça, il y a aussi la question de comment est-ce qu'on se définit en France. Aujourd'hui, il y a beaucoup de terme, on peut se définir comme afro-descendant, noir, français, peu importe, et c'était une façon de dire, en fait, on ne sait pas trop comment se définir.
Donc c'est africanisé, vous diriez, c'est une...
Oui, si on peut dire que c'est créolisé.
Urbanisé.
Urbanisé, voilà, je préfère.
On va voter pour ça.
Ouais.
Alors cette voix qu'on vient d'entendre, avec l'abécédaire dans sol majeur 12 France, cette voix qui parle de secret de famille nationale quasiment, c'est la voix d'une cave.
Oui, c'est Naki Sissavané qui a prêté sa voix à
la
cette
cave.
La
comédienne Naki Sissavané, d'accord.
Oui, cette cave, en fait, c'est la cave qui représente un petit peu tout ce qui est caché dans notre histoire de France et aussi un petit peu dans notre histoire africaine. Hein. Cette cave-là, ce qui est marrant, c'est qu'elle fait aussi le pont entre ces deux continents en rentrant dans cette cave en France, en déroulant les objets coloniaux qu'elle contient. Elle nous permet aussi de nous rapprocher... d'accéder à des vérités dont on n'est pas conscient et que personne nous a transmises jusque-là. Et toi alors ? Qu'est-ce que tu fais ?
J'écris, comme d'habitude, toutes les nuits.
En mode vampire. T'écris quoi ?
C'est un roman historique. Ça fait 7 ans que je suis dessus, mais c'est un sujet majeur. J'essaie de raconter l'héritage colonial français. Il faut qu'on puisse témoigner de la violence du passé.
Moi, perso, j'ai pas envie qu'on me parle de ça. J'ai pas envie de souffrir ou de me mettre en colère pour un truc que j'ai même pas vécu. Attends, c'est bon, je suis pas mon grand-père. Hein. En plus, je sais pas si t'es au courant, mais c'est un peu tendu en ce moment.
Justement, c'est maintenant qu'il faut en parler. Et d'ailleurs, ça m'intéresserait de connaître ton point de vue.
Mon point de vue, c'est laissez-nous tranquilles.
Français, pour en sol majeur, donc l'histoire de deux afro-descendants, l'un d'origine sénégalaise, l'autre d'origine camerounaise, deux voisins coincés dans la cave de leur immeuble, qui se cognent à l'histoire coloniale. C'est très tendance d'ailleurs aujourd'hui, cette thématique. Cette envie, elle est née comment entre vous, Raymond Dicoumé, et Lamine Diagne ?
Alors, c'est d'abord venu de l'ami. Il avait écouté une chanson qui l'a traumatisé, qui était « Le temps béni des colonies » de Michel Sardou, qui l'a vachement questionné.
Moi, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de la web. J'avais des ficelles au képi, au temps béni des colonies.
Et puis aussi, il faut dire qu'à ce moment-là, Marseille, il travaillait sur un auteur afro-américain qui s'appelle Claude McKay.
Qu'on a reçu pour cette histoire-là, pour ce documentaire magnifique.
Super. Ouais, ouais. Et donc, il travaillait dessus et tout à coup, il a aussi écrit un spectacle, une correspondance avec ce poète disparu. De cette correspondance, il s'est rendu compte qu'il avait aussi envie d'explorer lui-même son africanité, son rapport à la colonisation. Mais c'était un peu difficile de traiter d'un sujet comme ça, très politique et historique, quand on est artiste. Et très vite, s'est posé la question de comment est-ce qu'on s'approprie cette histoire, comment est-ce qu'on n'en fait pas juste une conférence, et comment est-ce qu'on trouve notre place aussi à l'intérieur. Et l'idée était de se dire que, en fait, pour raconter cette grande histoire, on va passer par nos histoires.
Alors, ce qui est intéressant, et ce qu'on écoutait là dans l'extrait de français pour un sol majeur, c'est que Lamine et Raymond n'ont pas le même ressenti par rapport à l'histoire coloniale. Lamine, lui, veut plonger dans cette histoire. Raymond, il n'est pas tellement d'accord.
Il n'est pas tellement d'accord.
Alors, c'est le personnage ou c'est vous, vraiment ?
C'est un peu des deux. Moi, c'est la chose qui me dérangeait beaucoup, moi, c'était surtout les représentations coloniales. Au début, en fait, on a travaillé avec beaucoup de vidéos d'archives et je n'en pouvais plus, en fait, de ces représentations des hommes noirs en train de travailler à la chaîne, à couper des arbres. Et par rapport au rapport que j'ai avec mon histoire, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était d'aller justement avant la colonisation, de savoir dans quel monde mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont vécu.
Donc, avant le traumatisme de la colonisation.
Exactement.
Vous voulez pas parler des sujets qui fâchent.
Je ne voulais pas parler des sujets qui fâchent.
Donc vous êtes dans cette cave et c'est normal.
Et c'est normal. Et
cette cave qui détient les secrets de l'histoire coloniale.
C'est ça. Et je vous dis, il n'a pas forcément envie de le voir. Et puis il y a aussi cette problématique dans laquelle il se retrouve et dans laquelle aussi beaucoup de personnes issues de l'immigration se retrouvent, c'est dans le fait d'être français. Moi, je suis le premier enfant né en France et petit, en fait, on m'a souvent confronté au fait que j'étais français, que j'avais de la chance d'être français, j'étais valorisé par rapport à ça.
C'est le privilège.
Exactement, le privilège. Et puis en plus, j'ai appris à écrire vite, je parlais bien le français, donc j'étais le petit français. C'est quelque chose qui m'a suivi pendant longtemps.
Et vous ne vouliez pas renoncer à ça ?
Non.
Soyons clairs.
Non, mais je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Puis je crois aussi, même après, quand j'ai grandi, c'est aussi une problématique qui m'est revenue de part et d'autre. Par exemple, mes amis antillais aussi avaient à cœur d'être considérés comme français, qu'on ne les africanise pas. Et puis à un moment, en fait, je comprends aussi que dans la société, en fait, il faut revendiquer le fait d'être français. Donc aussi, d'une certaine façon, d'effacer ses origines. Donc, ouais, cette problématique-là, en fait, je l'incarne vachement dans mon personnage.
La France poursuit dans la ouest le but qu'elle s'était fixé, bâtir pour l'avenir.
Tout va s'en faire. Les routes, les ponts. Les Français ne croient toujours ici pour moins pendant très très longtemps.
C'est très dur évidemment, mais c'est pour eux, voyez-vous, c'est quelque chose qui va directement leur servir, ce n'est pas détourné à des fins communautaires, c'est pour chaque famille, chacun recevra en proportion de son travail.
Dans français, donc, ce huis clos avec vous, Raymond Dicoumé et Lamine Diagne, on va dire que le temps béni des colonies avec sa mission civilisatrice apparaît effectivement en image dans chaque carton. Parce que chaque carton, ça c'est une belle idée de mise en scène, devient un écran télé.
Oui. L'idée, donc, c'est qu'on se retrouve dans une cave et que cette cave nous parle avec des sons, avec des images et nous refait aussi vivre justement cette période coloniale. C'est aussi comme des projections. Qu'est-ce qu'on projette sur nous en France ?
Gros travail de documentation et d'archivage. Vous avez lu des livres d'histoire. Comment vous avez travaillé la dimension historique de cette pièce ?
Alors, on a, comment dire, il y a la mine qui s'est vachement concentrée sur la colonisation du Sénégal, moi plus sur la colonisation du Cameroun. J'ai beaucoup lu, mais on va dire que j'ai enquêté auprès de mes parents, auprès de mes oncles et tantes au Cameroun. J'ai fait deux voyages au Cameroun pendant l'écriture de la pièce, et donc je suis allé aussi un petit peu sonder ce qui se disait, parce que sur cette histoire-là, il me paraissait assez clair qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient un petit peu cachées, et donc j'ai dû accéder à d'autres paroles pour me poser des nouvelles questions et élargir les problématiques dont on parle dans la pièce.
On n'est pas loin du théâtre documentaire.
Oui.
Hein. Et d'ailleurs, votre personnage, il a cette phrase, il dit « Moi, je n'ai pas de carton », parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, dans cette cave qui recèle les secrets de famille nationale, la mine découvre dans un des cartons des lettres de son père. Et en lisant ces lettres, il découvre le pourquoi du comment le Sénégal n'a pas peut-être été incarné dans sa vie à lui, de petit garçon, etc. Donc, votre personnage, Raymond Dikoumé, il a cette phrase, au contraire, « Moi, je n'ai pas de carton ».
En effet, Raymond n'a pas d'objet dans cette cave qui le relie à son histoire. C'est-à-dire que son histoire lui vient par flash, lui arrive en fait de façon un peu mystique, et ça a aussi matérialisé quelque chose, une problématique que moi-même j'éprouvais en tant que jeune Français, c'est-à-dire de ne pas connaître mon histoire, de ne pas connaître l'histoire de mes parents. C'est comme si mes parents, à partir du moment où ils viennent en France, en fait, ils tournent une nouvelle page, et il y a des choses qui ne nous disent pas, peut-être par honte, parce qu'à un moment, je comprends aussi que le fait d'être français, c'est comme si c'était une chance pour moi et qu'ils n'avaient pas besoin de m'encombrer avec toutes les problématiques qu'ils ont pu voir au Cameroun. Donc j'ai l'impression d'arriver un peu comme une coquille vide.
Je suis né français. Mes parents étaient camerounais. Mes sœurs étaient camerounaises. Et moi, j'étais le petit français. Ça faisait plaisir à tout le monde, mais moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire être français. Être fatigué, d'accord ? Être malade, ok, mais être français ? Le seul lien que j'ai avec le pays d'origine de mes parents, c'est ma grand-mère. Mais elle est morte. Alors, on est parti l'enterrer au Cameroun. Et le Cameroun, c'est un peu comme la France, mais en plus tropical. Au Cameroun, on parle français. Les gens ont des prénoms français. Les rues ont des noms français. On paye en francs, CFA. L'hymne national est en français. On regarde Canal. On a des cartes SIM orange. On mange camerounais. Mais on rêve français.
Est-ce que le Cameroun serait encore un précaré français, Raymond Dikoumé ?
Oui. Oui. Ouais. Et ça, c'est triste. D'ailleurs, là, lors d'un dernier voyage, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes camerounais. J'ai participé à un festival qui s'appelle le Modaperf. Beaucoup d'artistes, justement, ont créé des performances en lien avec leur culture. Et je me suis rendu compte que la problématique que j'avais d'avoir la sensation, en fait, que la culture de mes parents était en train de s'effacer parce que j'étais en France, ben, en fait, eux, là-bas, vivent la même chose. Parce que le français écrase beaucoup de petites langues. La religion aussi, la religion catholique écrase les traditions, et puis je dirais même aussi la néocolonisation. Hein.
Vous pensez à quoi quand vous dites néocolonisation ?
Je pense déjà en fait à l'exploitation des sols, l'exploitation de la forêt camerounaise. Même le village de mes parents se trouve donc à Yabassi, qui est une région forestière, et c'est incroyable en fait le nombre d'arbres qui quittent cette forêt tous les jours et qui sont vendus à très bas prix. Je parlerai aussi de la politique, où au final la politique, l'organisation administrative camerounaise est toujours calquée sur l'administration française. La monnaie aussi, le fait qu'on paye en francs CFA. Malheureusement, le Cameroun est toujours aux prises avec son colon.
En tout cas, belle histoire entre deux afrodescendants, deux Français qui se cherchent à travers leurs origines sénégalaises et camerounaises et qui font du théâtre hein, aussi, puisque vous interprétez différents personnages, notamment la mère de la mine. Il suffit juste de porter un imperméable. C'est ça, la magie du théâtre. Et c'est une pièce aussi qui fait, on l'a dit, ressurgir la voix du bon vieux temps des colonies, la voix de Clémenceau, la figure d'un grand-père tirailleur sénégalais. d'un oncle au service de la régie des transports du Cameroun ou d'un entrepreneur colonial convaincu des bienfaits de cette colonie? Je ne sais pas, c'est une question, mais peut-être que ça a réveillé chez vous, comédien citoyen, une mémoire ancestrale.
Benenamuto kawae, aïe, il est passé, tonne. Natondi oae, ndewe bie. Natondi oae, ndewe bie, nae.
Quel est ce chant, Raymond Dikoumé?
C'est une chanson qui s'appelle Natondiwa de Ben Deka, qui est un artiste camerounais. C'est une chanson que j'ai justement aussi beaucoup entendue quand j'étais enfant, qu'on passait souvent dans les fêtes, dans les soirées, que j'interprète dans le spectacle. C'était aussi le rapport que j'ai avec... La langue bassa, la langue de mes parents, qui est une langue que je ne parle pas malheureusement, mais que j'adore chanter. Et j'ai l'impression que justement que c'est aussi la musique qui me permet le mieux d'appréhender la langue, en tout cas de la comprendre. Et cette chanson-là aussi, c'est une chanson d'amour, donc que je chante un crâne qui représente aussi un être cher pour moi, qui représente ma grand-mère.
Eh oui, mais justement, avec la présence de ce crâne, on est aussi là dans la convocation de l'esprit des ancêtres. Et d'ailleurs, oui. Il y a évoqué dans Français cet arrière-grand-père tirailleur sénégalais du côté de la mine qui est mort pour la France et qui se retrouve enterré dans une fosse commune. Oui. Ça sert à quoi de faire ressurgir ces crânes et ces ancêtres? C'est une question qui mérite un tacle. Raymond Dikoumé.
Ça permet de se compléter. Ça permet de ne pas oublier, ça permet encore une fois de faire rentrer d'autres histoires dans le théâtre français.
Ces tirailleurs sénégalais font partie de l'histoire de France.
Bien sûr, bien sûr. Puis je crois qu'il y a aussi vraiment la question de l'endroit dont on parle, parce que là, pour le coup, en fait, c'est pas des objets exotiques, c'est nos grands-pères, c'est nos arrière-grands-pères, donc même, comment dire, la tendresse, l'empathie qu'on peut avoir pour ces histoires-là est tout à fait différente.
Français sera donc joué cet été, en juillet, au Festival d'Avignon, au Théâtre des Halles. Est-ce que vous avez la sensation que, on va dire, ce fameux mot, la diversité, se fait enfin sa place dans le théâtre français, ou est-ce que c'est encore une place de strapontin?
C'est une bonne question. J'ai l'impression que, en effet, ces dernières années, il y a pas mal de choses qui ont changé. Je trouve que, par exemple, les afroféministes aussi ont vachement donné un bon coup de pied dans la fourmilière en ouvrant les esprits, en ouvrant à de nouvelles problématiques, à de nouvelles esthétiques. Donc, j'ai l'impression qu'en effet, il y a une porte qui s'ouvre, mais malheureusement, la porte qu'on aimerait bien se voir bien ouvrir aussi, c'est la direction des institutions, parce que malheureusement, je constate qu'on répond aussi toujours à un cahier des charges, que là, en effet, en ce moment, en fait, la question coloniale est à la mode. Du coup, en fait, on nous rend visible. Il y a une porte qui s'ouvre, mais ce que j'aimerais, c'est vraiment, en fait, qu'il y ait beaucoup plus de diversité aussi à la tête d'institutions et qu'on soit mieux représenté aussi à ce niveau-là.
Que ce ne soit pas juste une mode, donc.
Exactement.
Une dernière question en sol majeur, Raymond Dikoumé. Je sais qu'il y a quelque chose de votre Cameroun qui désormais n'est peut-être plus seulement le pays de vos parents. Il y a quelque chose de ce Cameroun que vous aimeriez partager et qui a un lien avec un prénom, c'est Charlotte. Ces percussions viennent de votre village familial, oui. Nkomalan.
Exactement.
Et elles ont une histoire.
Oui, vous avez super bien prononcé le nom du village. C'était le jour de l'enterrement de ma grand-mère. Ce jour-là, en fait, j'ai été invité à danser pour son départ. Et puis, on va dire que c'était un moment assez important dans ma vie parce que je réalisais, en fait, que je perdais aussi la personne qui me reliait vraiment au Cameroun. Pour moi, c'était une dame qui avait un savoir, qui connaissait mon grand-père, d'ailleurs, dont je porte le prénom, et qu'avec sa mort, toute une histoire disparaissait.
Et vous étiez son petit mari?
J'étais son petit mari.
Exactement.
Exactement. Mais malheureusement, on n'a pas pu énormément communiquer parce que je parlais français, elle parlait la langue.
langue, donc on avait des, comment dire, on parlait pas beaucoup. Donc là, je me rends compte en tout cas que je perds quelque chose et aussi que j'ai une responsabilité. En fait, là.
Ça, vous l'avez appris grâce à Papa Lobé, donc.
Exactement. Je l'apprends grâce à Papa Lobé. Lui, Papa Lobé, en fait, il m'ouvre encore toute une autre part de mon histoire. En fait, il me présente mon héritage, il me présente mon village, il me présente mon terrain, il me présente aussi les traditions. Il me fait comprendre aussi que, voilà, nous, en France, pour passer par Dieu, on passe par Jésus. Mais ici, en fait, pour te connecter à ta spiritualité, il faut passer par les ancêtres. Il faut aller nettoyer la tombe de ton grand-père, dont tu portes le nom, d'ailleurs. Donc, en fait, il me connecte vraiment... à toute une dimension culturelle à laquelle je n'avais pas accès et au final qui me nourrit toujours aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression que les petits rituels qu'il m'a donnés, c'est des rituels qui m'accompagnent toujours aujourd'hui.
Bon, je vous souhaite de faire carton plein, si j'ose dire, à Avignon, mais aujourd'hui, vous l'avez, votre carton.
Oui, je l'ai, mon carton. Ah, mais oui, oh là là. Excusez-moi. Je n'ai pas compris, je vais vous la blague arriver.
Oui. Merci Raymond Dicoumé. On va se quitter avec un petit peu de Marseille puisque vous êtes ancré dans cette ville phocéenne depuis 7 ans maintenant.
Oui.
Vous êtes partant pour danser le Mia ?
Avec plaisir.
Parce que danser le Makossa, d'accord, mais oui. Il y a aussi le Mia.
Oui.
Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le trois quarts en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, Nebuloni. Dès qu'il passait, Caméo, Midnight Star. SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se forment. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Via planète Marseille, je danse le Mia. 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 Jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais. Des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles c'était moins rose.
Oh cousine, tu danses ou je t'explose.
Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué.
Oh comment tu parles à ma soeur.
Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, dont je brille, je te bousille, tu te rhabilles. Et moi je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi K8-73. JM 120, mon petit, du grand voyou à la plus grosse moquette, la main sur le volant. Avec la moquette, par un soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros
sur mon père.
La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malek, Coco, la coupe à la Marley, Pascal et Terrasta. Des afros sur François et Joe. Déjà à la danse à côté des personnes, ne touchait une bille. On dansait le Mia.
Alors, pendant que vous dansez le Mia, j'en suis sûr, j'en profite pour vous rappeler qu'au générique de cet ensemble majeur consacré à Raymond Dicoumé, on a eu un petit peu de bassa, d'afro-descendance en France, et pas que pour la rime, le tout mitonné par Thibaut Baduel et Yasmine Chouaki, tout ça à retrouver, vous le savez, en podcast sur Pure Radio.
Je danse le Mia. Je danse le Mia. Yeah.